perkeleen tontot!
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue à tous, vous êtes dans l'émission Check Meload, votre émission métal qui chaque semaine fait le tour de l'actu, avec aujourd'hui beaucoup de nouveautés à vous proposer. Mais on va commencer cette émission, si je commence à mettre les mots à l'envers, ça va pas le faire. On commence cette émission avec une interview du groupe Welcome X, qui a sorti un album éponyme il y a quelques temps. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sam, qui est le chanteur du groupe. Bonjour Sam.
Salut, bonjour. Salut, ça va?
Eh ben très bien, et toi, comment se passe cette journée de promo?
Grosse journée de promo, ouais. Ça débourre pas, quoi.
Et c'est pas fini, c'est que le début, j'imagine.
Non, je suis encore là pendant longtemps, ouais.
Alors pour commencer, Sam, on va faire un petit peu plus ample connaissance avec toi, avec le groupe. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand et comment est né ce projet Welcome X?
Alors comment c'est né? Écoute, j'ai rencontré Philippe, donc le bassiste du groupe, qui est le bassiste de Magma.
Ouais.
Lors de jam dans des clubs de musique. Voilà, vu que moi je fais de la musique depuis longtemps, je chante beaucoup de blues. Et je travaillais dans un bar qui s'appelle Cabo des Oubliettes à Paris, qui est un bar de jazz blues.
D'accord.
De musique improvisée, voilà. Et on s'est connus dans cette ambiance-là il y a 15 ans, quoi.
Ok. Après.
Et on jammait quelquefois, on buffait, puis on s'est retrouvé un jour avec Johan Serra, donc le batteur qui a enregistré l'album, Joe, qui est un guitariste de blues, et on jammait tout le temps ensemble, et puis un jour on est parti dans des sphères un peu plus métal et complètement bizarres, chelou, quoi, et on s'est dit, on s'est regardé, on a dit, bon, ça, voilà, faut qu'on fasse un truc avec ça, quoi.
Ok.
Donc, c'est un peu comme ça.
Donc en jammant, quoi, tout simplement.
Et ouais, la base, en tout cas, ouais. Mm. L'idée de monter le groupe en jammant. Après, les musiques en elles-mêmes, après, on les a composer ensemble, quoi. Enfin, Bubu, là, les a composés, ce qu'elles se sont fait après, mais la rencontre s'est fait comme ça, ouais.
D'accord.
Dans ce milieu-là.
Alors, vous vous définissez comme un groupe de métal alternatif, de rock alternatif. Moi, perso, je trouve que votre musique, elle est bien plus nuancée que ça, avec...
Mais alors, c'est pas nous qui avons mis cette étiquette-là, vraiment.
Ah, alors, parce que moi, je vais te dire ce que j'ai ressenti beaucoup d'influences, alors très variées, bien sûr. Il y a du rock progressif, il y a du métal avant-gardiste, un peu de jazz. Tu disais tout à l'heure que Phil, voilà, c'est aussi bassiste de Magma.
On a essayé d'édulcorer un peu ce truc-là, mais bon, c'est forcément, tu l'auras quand même.
Oui, voilà. C'est quoi les univers musicaux de chacun des membres? Il y a beaucoup de choses, non?
Le spectre est très très large.
Ah ouais, ça se ressent dans l'album.
Il y a autant une partie de blues qui est rapportée par Joe ou par moi que des parties très métal progressif ou des trucs beaucoup plus du chant hardcore aussi.
Ouais.
En fait, honnêtement, ça va de Tool en passant par Rage Against the Machine, en passant par Meshuggah et par Black Sabbath. Donc tu vois, je peux pas te dire vraiment.
Mais en même temps, ça conforte bien ce que j'ai ressenti en écoutant le disque.
Ouais,
quoi.
C'est super, ouais. Écoute. Donc, mais tu dis, on est forcément obligé de foutre dans une catégorie. Mais on a mis Metal Alternative parce que c'est le truc qui nous paraissait le plus large.
D'accord.
Mais je t'avoue qu'en effet, chacun fera sa propre idée, mais c'est. Il y a plein de couleurs différentes, quoi.
D'accord, oui, voilà. C'est vraiment. On va en écouter un extrait tout à l'heure pour que nos auditeurs se fassent une idée. Mais voilà, moi j'ai senti un truc très. Il y a beaucoup de choses. C'est très varié, c'est très riche. Et en même temps, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est à la fois direct, complexe, mais avec un son qui est très organique, avec une énergie qui est très brute, proche du live en fait.
Eh bien écoute, c'est marrant que tu me dises ça parce que ça a été enregistré en condition live.
D'accord, mais ça m'étonne pas.
on a essayé de garder ce côté, tu sais, que tu avais la musique des années 70, ouais. Les groupes comme Black Sabbath, parce que tous ces groupes-là qui se regardaient en studio, tu vois, ils se regardaient, ils prenaient du plaisir à jouer ensemble, il n'y avait pas... Maintenant, on est dans une période où, tu sais, on va beaucoup en studio, chacun enregistre avec son propre truc, tout est un peu édité. Nous, on a essayé de garder cette espèce d'urgence, ce côté un peu garage, c'est pour ça que
ouais,
tu vois, de se retrouver comme si on avait 15 pistes dans notre garage. Alors... Les gars derrière, ils ont tous un background, ils ont un temps de musique, ils sont tous pros, donc forcément le faire avec une assise un peu plus technique, c'est un peu plus évident. Mais on essaie de garder ce côté live, ouais, ce côté on prend du plaisir, on laisse un peu par improvisation, et le son, je pense qu'il s'en ressemble. Et la preuve, tu l'as ressenti, donc j'espère que c'est le cas. Ça fait gaffe pour les gens qui vont l'écouter, ouais.
Parce qu'il est agréable, c'est que voilà, c'est pas tout lisse, quoi. Il y a quelques aspérités, et ça, c'est assez chaleureux, quoi, en fait.
Mais merci, ouais. Bah écoute, on sait pas trop dans quelle direction on allait. On s'est pas dit on va faire ci, on va faire ça. Il faut qu'on fasse ci. Peut-être qu'on va pas parler. En fait, la musique a parlé d'elle-même. Voilà, ça s'est fait d'un coup. Donc c'est chaque morceau est très typé. Je pense qu'on est assez différents les uns des autres.
Ouais.
Ils ont un fil conducteur et une espèce d'ambiance générale sur cet album-là. Mais voilà, c'était notre façon de fonctionner. Et puis on est bien content de comment c'est ressorti. Après, on a déjà le matériel pour un deuxième album, on a déjà plein de choses, tu vois, donc c'est vraiment, il y a déjà une identité de groupe très, très particulière, quoi.
Alors, j'ai beaucoup aimé aussi ta prestation, parce que tu possèdes une palette vocale qui est extrêmement large, extrêmement riche, et tu te sers beaucoup de cet atout pour livrer des interprétations.
Bah, c'est un instrument, hein, c'est vraiment sur cet album.
Voilà. Les interprétations sont assez intenses, et ça m'a fait pas mal penser à Mike Patton.
Ah bah écoute, oui, bah merci, c'est pour la seule à le dire. Alors c'est bizarre parce que j'adorais Faith No More et puis j'ai certains projets de Mike Patton, mais c'est pas, j'ai jamais été vraiment une influence particulière, mais il a cette même façon de bosser. Mike Patton, il vient de plusieurs univers différents, il met du bel canto, plein de trucs, donc c'est les éléments qu'il a rapportés lui dans ses chansons et dans sa voix. Moi je suis passé et par le blues, et par le death, et par le black, et par le doom, le stoner, donc forcément... en fonction des émotions que j'ai envie d'exprimer sur une chanson, je peux me permettre de changer de tessiture vocale. Voilà.
Mais c'est pas permis à tout le monde de faire ça. Hein.
Pardon ?
C'est pas permis à tout le monde d'arriver à faire
ouais.
ça.
il y a un peu de boulot. Hein.
ouais, j'imagine.
En fait, je me retrouve quand même avec des icônes, tu vois, qui ont déjà. Je suis pas là pour rien non plus. Mais il y a du taf. Après, tu sais, c'est de la musique, c'est de l'émotion. Après,
ouais.
En effet, pouvoir exprimer l'émotion avec la technique qu'il faut, c'est du boulot aussi, quoi. C'est un peu comme tout. C'est pour ça que sur cet instrument-là, sur cet album-là, la voix, c'est vraiment un instrument. T'as du chant autant du borborygme tibétain, t'as du chant diphonique, même, des espèces de chants tout à un moment, des chants grôlés, des trucs aériens, des trucs... Mais moi, du coup, ça me plaît beaucoup de pouvoir faire des choses très différentes. Et de pas lasser, en fait, tu vois, de pas faire un truc très monotone, monocorde, quoi. Ça peut chier, moi, déjà.
Des fois, c'est même presque théâtral, je trouve.
Oui, t'as raison, oui, complètement. Il y a ce côté, c'est de l'expression, c'est de l'émotion. Donc, en fonction de chaque truc que je vais dire, je peux le déclamer comme si j'étais dans une tribune. C'est vraiment de la musique jouée sur, tu vois, on peut penser que c'est de la musique écrite, c'est par des icônes, qui lisent leur partition, en fait pas du tout, c'est vraiment on se laisse aller, quoi, donc ça peut être théâtral, ouais.
Alors puisqu'on parle du chant, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots des paroles, hein, des chansons, puisque
ouais.
c'est toi qui en es l'auteur, hein, je crois.
Ouais, c'est moi, ouais.
Alors de quoi ils parlent, tes textes, c'est quoi tes sources d'inspiration?
En général, c'est toujours le côté humaniste et universaliste de la chose, quoi.
Après, ouais.
On parle beaucoup de l'absurdité de la société où on va, quoi, où est-ce qu'on est en train de foutre les pieds. Bon, après, ça peut paraître pessimiste sur certaines chansons parce qu'il y a un constat d'échec qui se fait. J'essaye toujours de donner une petite note d'espoir, j'espère qu'on l'entend à un moment. Mais je suis un peu préoccupé par la merde dans laquelle on est.
Ouais.
Donc, ça ressort un peu. Il y a un côté écolo. Bon, écolo, c'est pas péjoratif ou dire le truc hippie du truc, quoi, tu vois, mais il y a cette espèce de prise de conscience de ce qu'on est en train de faire et à la planète et à la société, et c'est pas la bonne direction dans laquelle on va.
Ouais, comme
donc, voilà. Après, moi, je suis pas donneur de leçons, donc j'ai juste essayé de faire de mettre ça. Mon médium, c'est la musique, donc de le coucher sur papier d'une façon plus imagée, et tu peux y voir, ta propre lecture, quoi.
Ouais. Enfin,
ça peut te... J'essaie de donner juste des clés de compréhension, de direction. Après, tu fais ce que tu veux avec ça. Si tu veux que ça, entendre que ça parle de la drogue ou de ses propres démons, ça me va très bien aussi. Mais voilà, en général, c'est ça, quoi. C'est vraiment c'est un questionnement sur ce qu'on est, quoi.
D'accord, c'est des textes plutôt ouverts, quoi.
Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Il y a toujours une double ou triple lecture dans ce que tu fais. Ça peut être aussi comique, comique d'une façon désabusée et ironique, quoi.
Ouais.
Mais ouais, c'est... J'essaie de rester très large, de donner juste des images. Quoi.
Bon, on la sent bien, cette petite pointe d'ironie de temps en temps, hein, parce que ça retransparaît de toute façon dans ton interprétation.
Ouais, bah oui, forcément, oui.
Alors l'album, il se referme avec le morceau I Am Life.
Oui, yes. Ouais.
Les paroles, c'est extrait d'un roman de Jack London, c'est ça, hein?
Tout à fait, qui s'appelle Le Vagabond des Étoiles.
Ouais. Et c'est une œuvre qui est très engagé et qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, c'était en 1915.
Ouais. C'est complètement à part de sa bibliographie, ouais. C'est un truc un peu science-fiction qu'il écrit, mais ça a changé beaucoup de choses, en fait, ce bouquin-là. Il est très important. C'est lui qui a fait interdire la camisole de force aux États-Unis, notamment dans... Il était arrêté à l'époque, c'est un peu son histoire, il était arrêté pour vagabondage. À l'époque, les mecs, on les foutait dans les asiles et on leur foutait une camisole, quoi. Et pour pas devenir fou, pour pas se bouffer la langue, il est rentré dans sa propre conscience, il a vécu des vies antérieures, il essaie de s'échapper, en fait. Il fait la conscience humaine. D'essayer de vivre d'une autre façon, et c'est en fait ces paroles-là, ça m'a pété au visage, quoi. J'aurais aimé les composer, et ça correspondait tout à fait à la musique qu'on jouait, et donc c'est presque, enfin, je me la suis approprié, mais c'est, je regrette de respect à monsieur Jack London pour avoir écrit ça il y a plus de 100 ans, quoi.
Et un texte qui fait encore, qui a encore des répercussions finalement dans l'actu, hein, ouais.
Oui, j'ai envie de te dire.
Plus que jamais, quoi.
aujourd'hui que jamais, ouais. Tout à fait.
Alors, l'album, vous l'avez déjà présenté plusieurs fois sur scène. Alors, j'imagine que maintenant, vous avez envie de le présenter un petit peu partout à travers la France, voire au-delà. Ouais. C'est quoi vos prochaines dates?
Ben, écoute, l'album, techniquement, alors, il est disponible sur le label, mais techniquement, il sort le 29 mars.
D'accord.
On fait rien comme les autres, nous. Donc il sort le 29 mars, il sera distribué. On présente, on va jouer le 22 mars au backstage à Paris.
OK.
Avec Hélène Rat. Le lendemain, on est à Nantes, au Ferrailleur, avec Dent. Qui jouera au Hellfest d'ailleurs, Dent, super bon groupe. Et après, donc le but du jeu, c'est de défendre l'album sur scène. De toute façon, le studio, c'est un passage obligatoire pour concrétiser ce qu'on avait fait. Mais notre vie, c'est la scène en fait.
Ouais, j'imagine bien.
Là, on peut s'exprimer, on peut improviser, on peut faire plein de choses. On a déjà le matériel pour un deuxième album. Donc en fait, quand on joue sur scène, là, il y aura et une partie de l'album et des titres totalement nouveaux que les personnes n'ont pas entendu déjà.
D'accord,
donc,
des petites surprises.
J'essaye de proposer quelque chose d'un peu différent, ouais.
Bah, en tout cas, moi, j'espère que vous allez passer du côté de Nevers, parce que j'ai très envie de vous voir sur scène, cet album. Ça m'a vraiment donné envie de vous voir en live, quoi.
Bah, merci. Sur ce tout-là, on se fait vraiment plaisir, tu vois. C'est vraiment là, on peut s'exprimer, en fonction du public, l'ambiance et tout. On vit comme ça, on vient de cette musique-là, donc, c'est vraiment viscéral, quoi. Donc nous, la scène, c'est vraiment primordial, quoi. On vit pour ça, quoi. Donc on a très hâte de pouvoir venir à Nevers et dans plein de d'autres villes, que ce soit en Europe, là. Donc j'espère venir bientôt, ouais.
Eh ben, en tout cas, ouais, si vous venez, je serai là avec grand plaisir.
Je t'invite quand tu veux.
Alors, avant de refermer cette interview, Sam, est-ce que tu as d'autres projets musicaux sur le feu ou est-ce que Wellcomics, ça t'occupe déjà suffisamment?
Alors ça m'occupe pas mal, mais... Je suis un mec qui fait de la musique depuis. J'ai fait de la musique depuis que j'ai 13 piges, donc j'ai toujours plein d'idées en tête. J'ai un autre groupe qui s'appelle Necral.
D'accord.
Qui fait du doom death, quoi, un peu ambiant. Qui va sortir là. On a déjà deux démos là. On sort un troisième album là bientôt. Qui sort en vinyle d'ailleurs. J'ai un autre projet qui s'appelle Brutus, qui est plus genre high energy rock and roll, un peu punk, tu vois, genre The Helicopter, c'est tout.
Ouais.
Donc rien à voir absolument dans d'autres trucs. Et à côté, je fais toujours du blues, toujours. Et j'en viendrai un jour où je serai assidu avec une barbe blanche, je serai du blues. D'accord, là. Mais je, c'est tout. C'est ma sensibilité, le blues. C'est là où je viens. Donc, je finirai, je viendrai toujours, quoi.
Eh ben, en tout cas, écoute, si jamais tu veux nous reparler de tes autres projets à l'occasion de la sortie de tes futurs albums, n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai de nouveau dans Check Melode.
Avec plaisir. Merci à toi.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Sam, de nous avoir présenté Well Comics.
Ben, merci de nous avoir écoutés, hein. Donc, et puis, j'espère que bonne découverte pour ceux qui vont écouter le groupe.
Bah, j'espère qu'ils auront la... Moi, ça a été une vraiment très très bonne surprise. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec les auditeurs et puis de t'avoir eu pour en parler aujourd'hui.
Yes.
On va tout de suite en écouter un extrait. Alors, j'ai choisi Still Smile. Est-ce que ça te va?
Ah, ben c'est ça, c'est parfait. Tu sais, tous les titres sont mon cher album.
Bah oui, mais j'aurais bien voulu passer tout l'album, c'est un peu long.
C'est très bien. C'est cool parce que tu peux gérer ta radio parce que souvent. Les gars peuvent pas passer des morceaux de plus de 7 minutes ou de 6 minutes, donc
ah
c'est un peu embêtant, mais c'est parfait.
Ici, on fait ce qu'on veut. C'est,
Et ben là, franchement, ça fait plaisir.
On se fait plaisir, quoi, voilà, c'est le seul mot d'ordre. Et ben, je te remercie encore, Sam, je te dis à très bientôt. Alors peut-être
merci
sur la route ou pour une prochaine interview, je te souhaite bon courage pour cette journée de promo qui va être bien chargée. Et donc, tout de suite, voici Well Comics avec Still Smile. Salut.
Merci à toi. Salut.
c'était Welcome X sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Meload. Welcome X avec le titre Still Smiles, tout simplement un extrait de leur premier album. Alors si vous venez de nous rejoindre, tant pis pour vous, vous venez de rater l'interview de Sam Kuhn qui est le chanteur du groupe. Je rappelle que Welcome X, c'est un projet qui est né donc sous l'impulsion de Phil Bussonnet. Phil Bussonnet, il faut savoir que c'est notamment, il a un très très long CV, mais c'est notamment le bassiste de Magma, le mythique groupe de rock jazz. Depuis, alors il fait partie de Magma, si je dis pas de bêtises, depuis 1996, à vérifier, mais ça doit être à peu près ça. Et voilà, c'est un sacré musicien, il est entouré d'une sacrée équipe, et moi j'ai vraiment fait une très très belle découverte avec ce groupe, avec cet album, dont je vous conseille le premier album. Sept titres qui nous font passer par tout un tas d'émotions. C'est à la fois très technique, très un petit peu complexe, mais en même temps on a cette énergie très brute, très organique, et surtout Sam, c'est un excellent interprète, un Mike Patton à la française, quoi. Donc voilà, à découvrir absolument. Welcome X, retenez bien leur nom. On continue et on commence maintenant à faire un petit peu le tour des nouveautés de cette semaine. Alors je pense qu'il y en a tellement que j'aurai pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui, mais ça fait rien, on présentera le reste dans une autre émission. Et bah la grosse sortie du jour, les Mastodons, c'est le nouvel album de Dream Theater qui s'appelle Distance Over Times. Pour ceux qui débarquent sur Terre, petit rappel, c'est qui Dream Theater ? Eh bien, c'est un groupe qui nous vient de Long Island, dans l'état de New York, qui a été créé en 1985. Et au départ, le groupe va s'appeler Majesty. Alors, il est créé par deux étudiants de la prestigieuse école de musique de Berkeley. Vous avez d'un côté le guitariste John Petrucci et de l'autre le batteur Mike Portnoy. Au départ, voilà, c'est ce duo-là qui va être très vite rejoint par John Myung à la basse. Et à ce moment-là, ils vont jouer essentiellement des reprises de Rush, d'Iron Maiden, et puis petit à petit ils vont commencer à faire leur répertoire. Après quelques années de galère pour trouver un chanteur, Dream Theater trouve finalement l'homme de la situation en la personne de James Labrie en 91. Et alors c'est un line-up qui a beaucoup évolué, hein. Il y a eu pas mal de changements, dont un majeur avec le départ en 2010 de Mike Portnoy, le batteur. Et à ce jour, le groupe il se compose donc de James Labrie au chant, de John Petrucci à la guitare, de John Myung à la basse. Et puis sinon au clavier, vous avez Jordan Rudess. Et puis à la batterie, c'est désormais Mike Mangini. Le style de Dream Theater, bah, c'est du métal progressif pur jus, c'est-à-dire des compositions qui sont souvent longues, complexes, conceptuelles, techniques. C'est un peu tout ça, hein, Dream Theater. Côté discographie, leur premier album, il date de 89, mais c'est un disque qui va rester relativement confidentiel. Son premier gros succès, c'est le désormais culte Images and Words, qui sort en 92, qui sera largement acclamé par les médias. Et ben, en plus de 30 ans de carrière, le combo a sorti en tout 14 albums, dont quelques chefs-d'œuvre. Parmi ses disques les plus populaires, je peux vous citer Falling into Infinity, pardon, en 97, Metropolis Part 2 en 99, Octavarium en 2005, Black Clouds and Silver Lining en 2009, ou encore The Astonishing, le titanesque opéra metal en deux actes que le groupe a fait sortir en 2016. Alors c'est un album qui a été ovationné par certains, qui a été descendu en flammes par d'autres. Ces derniers voyaient là une œuvre totalement mégalo, mais tout ça, ça n'a pas empêché le disque de connaître un succès commercial assez gigantesque. Avec Distance Over Times qui paraît aujourd'hui, là on change radicalement de stratégie, puisque c'est un véritable retour à l'humilité, hein, qu'opère Dream Theater, qui après avoir sorti son album le plus long sort aujourd'hui son album le plus court, terminer également l'idée de concept album, terminer les longs morceaux, les orchestrations à n'en plus finir. Avec Distance Over Times, je vais y arriver, Dream Theater a choisi de faire un retour aux sources, de recentrer sa musique, de proposer des compositions plus épurées. D'ailleurs, la conception de l'album n'a rien à voir avec celle de The Astonishing, qui était avant tout l'œuvre de Petrucci et de Rudess. Là, Distance Over Time, il a été écrit et conçu par l'ensemble des membres du groupe, qui pour l'occasion s'est enfermé pendant 4 mois dans des studios isolés à Monticello, c'est dans l'état de New York. Donc il en résulte un album beaucoup plus organique, dynamique, beaucoup plus sincère, mais aussi qui conserve quand même malgré tout la signature unique de Dream Theater. En voici un extrait avec encore une fois un long morceau. Aujourd'hui, on va avoir des morceaux plutôt assez longs dans cette émission. Voici le titre Untethered Angel de Dream Theater. We'll be right back. Dream Theater sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Untethered Angel, cet extrait du nouvel album Distance Over Times qui sort aujourd'hui. Donc voilà, retour à quelque chose de plus humble pour Dream Theater, qui malgré tout sur ce morceau-là reste sur quelque chose d'assez grandiloquent tout de même. Ils ont une réputation à tenir. Donc voilà, ça c'est disponible. Alors c'est pas la seule grosse sortie du jour, il y en a une autre, moi, alors qui fait partie de mes coups de cœur hein, parmi les albums qui paraissent aujourd'hui, c'est le nouveau Candlemass qui s'appelle The Door to Doom. Candlemass, c'est un groupe de Stockholm en Suède qui a été fondé en 84 par Leif Eidling, qui est le leader principal compositeur du groupe. Depuis sa formation, eh bien, Candlemass a connu plusieurs périodes d'inactivité et a vu son line-up changer à de nombreuses reprises. Mais à l'heure actuelle, eh bien, il se compose bien sûr de Leif Eidling qui est à la basse, des guitaristes Mats Mappe Björkman et Lars Johansson, et puis du batteur Jan Lind. Quant au micro, eh bien depuis quelques mois, il est de nouveau tenu par Johan Langqvist, qui fut le tout premier chanteur du groupe, qu'on n'entend d'ailleurs que sur le premier album. Alors, le style de Candlemass, c'est du doom metal et plus précisément du doom épique. Du doom épique, c'est quoi? C'est du doom avec des influences médiévales assez fortes, avec des influences aussi fantastiques et heroic fantasy dans les paroles, qui sont chantées d'une manière très narrative, épique, parfois presque théâtrale. Et le métal épique, eh bien, c'est Candlemass hein, qui est à l'origine de ce genre. Donc, justement, en 86, les Suédois ils sortent leur premier album qui s'appelle Epicus Doomicus Metallicus. C'est un album qui va faire sensation jusqu'à devenir un classique du genre. L'album suivant, il s'appelle Nightfall, il sort en 87 et il connaît à nouveau un large succès dû en partie à l'arrivée du chanteur Messia Marcolin, qui est célèbre dans le milieu du doom pour sa voix très singulière et puis aussi son costume de moine qu'il porte à chaque fois sur scène. Deux albums studio, un live plus tard, Messia Marcolin quitte le groupe, il va laisser sa place à Thomas Wirström, mais bah cette nouvelle ère va s'avérer quand même moins fructueuse pour le groupe, qui va connaître sa première mise en sommeil entre 94 et 98. À son réveil, Candlemass va connaître une véritable valse des chanteurs. Alors il y aura un bref retour de Marcolin, et puis en 2012, ça va se calmer un petit peu, le micro il va être confié à Mats Levén, et pourtant bah, celui-ci il enregistrera finalement aucun album du groupe, puisque Psalm for the Dead, qui sort en 2012, avait été enregistré bah, juste avant son arrivée. Et comme il vient de repasser le micro à Johan Langqvist, voilà, il apparaît sur aucun album. Alors, il a pas rien enregistré du tout, Mats Levén, puisque on le retrouve sur deux EP, Death Tile Over, sorti en 2016, et puis House to Doom, qui date de quelques mois, qui est sorti en 2018. Donc, eh bien, il sera écoulé 7 longues années entre Psalms for the Dead et The Door to Doom, qui paraît aujourd'hui, qui est le 12e album des Suédois. Et quelle surprise, quelle claque, loin d'être usé par ses 35 ans de carrière, le combo culte s'offre bah, carrément un retour aux sources qui est aussi frais que jubilatoire. C'est un véritable hommage appuyé et assumé à son mythique premier album, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, Epicus Doomicus Metallicus, celui avec lequel Candlemass a formé son identité. Et The Door to Doom, c'est un album qui est incroyablement inspiré, qui est accrocheur, avec son doom de haute volée, légèrement vintage, Candlemass vous fera voir la vie en noir et vous allez kiffer ça. Et puis comble de la classe, monsieur Tony Iommi de Black Sabbath en personne est venu enregistrer un solo sur un des titres, un petit peu comme l'adoubement ultime de la part du maître et presque pionnier du doom à un de ses plus dignes héritiers, j'ai envie de dire. Et ce titre où on retrouve Tony Iommi, il s'appelle The Omega Circle, et ça tombe bien, c'est celui-ci qu'on écoute tout de suite dans Check Me Load sur Back FM, voici Candlemass. I had a dream last night, a vision, a prelude. Outside my body, I was free to do all things under the sun. And everything I want, my head awakened clear for everybody to hear, like the brightest day, it fades away. Yeah.
across the room. Inside the Doom Club, despise the cloak and dagger and the pentagram. I think I understand. More cyclones, more witches. Inside the circle and the
Omega Circle de Candlemass à l'instant sur Bike FM 106.1 dans l'émission Metal Check Me Load. Candlemass qui sort aujourd'hui son nouvel album The Door to Doom, album qui marque le grand retour de Johan Lundqvist, le tout premier chanteur du groupe. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter donc est un featuring avec monsieur Tony Iommi de Black Sabbath. Ça tombe bien puisque c'est un titre très Black Sabbathien, j'ai envie de dire, ce morceau qu'on vient d'écouter. Et voilà, c'est un très bon album que ce nouvel opus de Candlemass que je ne peux que vous conseiller si vous aimez le doom. On va passer du doom à du métal symphonique maintenant avec notre troisième sortie du jour qui nous vient d'Italie et c'est le retour de Rhapsody of Fire qui sort aujourd'hui l'album The Eighth Mountain. Alors Rhapsody of Fire c'est un groupe qui nous vient de Trieste qui a été formé en 93 par le guitariste Luca Turilli et le clavier Alex Staropoli dans le but à l'époque de jouer un heavy metal puissant, symphonique qui leur permettrait d'allier leur passion pour la musique classique et pour le heavy metal mélodique. Donc le style de Rhapsody of Fire, sans surprise, c'est du power metal symphonique. Alors c'est très grandiloquent, très épique. C'est un genre que le groupe définit lui-même comme du Hollywood metal. Donc le groupe, il se fait connaître sous le nom de Rhapsody tout court, hein, pour ceux qui se souviennent de leurs premiers albums. D'ailleurs, le premier album, il sort en 97. Il s'appelle Legendary Tales. C'est un disque qui va faire sensation au sein de la planète métal, qui va immédiatement être séduite par l'épopée médiévale et fantastique du jeune combo, qui va s'imposer directement parmi les groupes les plus enthousiasmants de la scène heavy metal. Legendary Tales marque par ailleurs le début de la saga de l'épée d'émeraude, qui va s'étaler sur 5 albums, donc qui va se poursuivre sur l'excellentissime Symphony of Enchanted Lands qui paraît en 98 et sur son glorieux successeur Dawn of Victory qui paraît en 2000, qui sont à mon avis les deux grands chefs-d'œuvre de Rhapsody. La saga de l'épée d'émeraude, elle va s'achever donc avec l'album Power of the Dragon Flame en 2002, alors qui personnellement m'a pas laissé un souvenir impérissable. Tout comme les disques suivants d'ailleurs. En même temps, il faut dire que la deuxième moitié des années 2000 va être un petit peu galère hein, pour nos Italiens qui déjà vont devoir, pour des raisons juridiques, devenir Rhapsody of Fire. Et puis en plus de ça, il y a Luca Turilli et Alex Staropoli qui sont les deux compositeurs principaux qui sont plus très d'accord sur la direction musicale que doit prendre le groupe. Et donc en 2011, Turilli va choisir de s'en aller pour fonder de son côté Luca Turilli's Rhapsody. Alors ça nous fait un joyeux bordel puisqu'on a un groupe qui se scinde en deux. Et en plus, avec lui, il va emmener quand même une partie des membres du groupe. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors depuis cet épisode, le groupe a sorti deux albums. Il y a eu le décevant Dark Wings of Steel en 2013. Et puis le très réussi Into the Legend en 2016, qui était sa meilleure œuvre depuis bien longtemps. Et puis depuis, nouveau coup dur pour nos Italiens, puisque juste après la sortie de l'album, c'est le chanteur Fabio Lione et le batteur Alex Hallwarts qui ont quitté l'aventure. Donc il a fallu revoir encore un petit peu le line-up du groupe. Et ce qui fait que The Eight Mountains, le 12e album des Italiens qui paraît aujourd'hui, est totalement synonyme de renouveau, puisque déjà il marque l'arrivée de Giacomo Volli au chant, et puis aussi c'est le début d'une toute nouvelle saga qui s'intitule The Nephilim's Empire Saga. Alors, si le côté musique est pas des paysans, puisque là, on retrouve vraiment toute la grandiloquence, les envolées symphoniques, et puis très lyriques qu'on aime tant chez Rhapsody of Fire, la surprise, elle vient justement de cette nouvelle recrue qui est Giacomo Volli. On l'attendait au tournant, puisque sa prestation était assez moyenne sur la compile Legendary Years, qui avait servi un petit peu à le présenter. Et ici, sur l'album, il se révèle extrêmement talentueux. Il a enfin trouvé sa place et il apporte un petit vent de fraîcheur au groupe. Pour résumer, The High Mountain, c'est un album qui est riche, qui est varié, qui devrait largement enthousiasmer les fans. Et en voici justement un extrait avec un morceau qui s'appelle Reign of Fury. C'est Rhapsody of Fire sur Wake FM. Rhapsody of Fire à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de l'album The Eight Mountain qui paraît aujourd'hui. On vient d'écouter le titre Reign of Fury, un titre qui nous rappelle la grande époque de Rhapsody of Fire, à l'époque où le groupe s'appelait Rhapsody, la grande époque, celle des trois premiers albums, et ça fait du bien de les retrouver en forme, et ça fait du bien de voir que le nouveau chanteur a enfin pris ses marques, parce que succéder à Fabio Lyonnais, c'était quand même un sacré défi. Donc c'est un bon album dans la lignée de son prédécesseur et rien à voir avec Dark Wings of Steel qui avait pas été franchement terrible. On retrouve nos Italiens en pleine forme. On va rester dans le métal symphonique, mais on va partir maintenant du côté des Pays-Bas pour la dernière sortie de cette semaine pour aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Et on va parler du nouveau disque de Delain qui s'appelle Hunter's Moon. C'est pas un nouvel album, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Juste le temps de vous donner quelques infos sur le groupe, donc qui a été créé en 2002 par le clavier Martin Westerhold suite à son départ après des problèmes de santé de son ancien groupe. Et son ancien groupe, c'était Within Temptation, le combo phare de la scène métal néerlandaise. Alors pour la petite anecdote, le nom de Delain, ça fait référence au royaume de Delain qui a été imaginé par Stephen King dans son roman Les Yeux du Dragon. Et puis ce qu'il faut souligner aussi à propos du groupe, c'est qu'il est mené par la frontwoman Charlotte Wessels, qui d'ailleurs n'est plus la seule fille du groupe, puisque depuis 2015, la seconde guitare est tenue par Merel Berchtold. Voilà. Donc Delain, c'est du métal symphonique avec pas mal d'influences gothiques. Le groupe va commencer à voir sa carrière réellement démarrer après l'arrivée de la chanteuse, donc Charlotte Wessels, en 2005, puisque dans la foulée, ils vont signer avec le label Roadrunner Records, et donc ils vont sortir en 2006 un premier album qui s'appelle Lucidity, qui va recevoir un très bel accueil en Europe. Les médias saluent notamment la qualité des compos, la production du disque. Et en plus, on trouve quelques invités assez prestigieux, puisque Sharon Denadel de Within Temptation est là. Il y a aussi Marco Hiellata qui participe, Marco Hiellata de Nightwish, ou encore Liv Christine de Liv's Eyes. Donc ça fait du beau monde et ça fait un petit peu de promo pour le groupe, mais l'album est très bon, hein. De toute façon, il faut bien l'admettre. Avec son deuxième disque qui s'appelle April Rain, qui sort en 2009, Delain va confirmer son potentiel pour ensuite s'installer parmi les formations majeures de la scène métal symphonique, avec un concept album qui s'appelle We Are The Others, qui paraît en 2012. Ensuite, il y aura The Human Contradiction en 2014, qui sera en quelque sorte la suite logique de son prédécesseur, mais dans un registre plus moderne, plus accrocheur. D'ailleurs, le disque sera largement salué par la critique, et puis aussi par les fans. Et depuis, Delain a sorti en 2016 l'EP Lunar Prelude, qui a été tout de suite suivi par l'album Moonbather, qui jusqu'à présent, c'est quand même leur production la plus mature, la plus aboutie, enfin du moins, c'est mon avis personnel. Mais si on parle de Delain aujourd'hui, c'est pas pour un nouvel album, c'est pour un disque qui est mi-EP, mi-live, puisque l'objet qui s'intitule Hunter's Moon, il se compose de 4 titres studio inédits et 10 titres live, dont pour la version physique en plus un DVD live, donc les fans vont être ravis. Alors ce qui est le plus intéressant dans ce Hunter's Moon, c'est bien évidemment les 4 inédits qui sont, je pense, un avant-goût du futur album du combo, et sur lesquels on retrouve cette incroyable maîtrise et puis cet immense talent qui sont plus à démontrer maintenant chez Delain. Martin Westerhold, c'est un compositeur hors pair, Charlotte Wessels, c'est une interprète fantastique, et notre duo est accompagné de musiciens extrêmement doués. Donc je pense qu'on peut dire que Within Temptation, qui est le groupe du frère et de la belle-sœur de Martin, n'a qu'à bien se tenir, parce que Delain pourrait bien lui ravir la place de leader de la scène métal néerlandaise, hein, on n'en est pas loin. On écoute un extrait de Hunter's Moon avec donc un des titres inédits, c'est celui qui ouvre le disque, ça s'appelle Masters of Reality, et c'est tout de suite dans Check Me Load.
Still I stole on the road as headlights approach. Hey! flesh picked on by
Masters of Destiny, Masters of Reality, non, of Destiny, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Masters of Destiny, c'est ça le bon titre. C'était deux lines en tout cas, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr également, c'est que vous venez d'écouter un extrait de Hunter's Moon, le nouveau disque des Néerlandais qui paraît aujourd'hui, qui vous propose donc quatre titres studio inédits et puis une dizaine de titres en live, avec bien sûr le DVD pour ceux qui achètent la version en vrai, pas la version numérique, quoique on peut peut-être aussi acheter la partie vidéo, ça je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné. En tout cas, voilà, c'est un avant-goût un peu de ce qui nous attend sur le futur album de Delaine, du métal symphonique de haute volée, et voilà, on a deux très gros groupes en ce moment aux Pays-Bas, c'est Within Temptation, Delaine. J'ai une petite préférence pour Delaine presque, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après, voilà, chacun son avis, mais moi je trouve que Within Temptation a fait un... Il est très bon, leur dernier album, qui est sorti tout récemment, on en a passé un extrait il y a très peu de temps, mais je sais pas, j'aime mieux le côté un peu épique de Delaine. Ça, c'est mon avis personnel. On termine cette émission, puisque c'est déjà l'heure, avec cette semaine la rubrique 20 ans dans tes dents. Et on écoutait quoi il y a 20 ans, en février 1999? Eh bien, figurez-vous que ce mois fut foisonnant en nouveautés, avec quelques pépites assez surprenantes, et du coup j'ai pas mal hésité avant de me décider. Et puis finalement j'ai choisi un groupe américain qui est issu de la mouvance New Metal, qui à l'époque a connu un succès fulgurant et qu'on a aujourd'hui malheureusement totalement oublié. Ce groupe, c'est Mindset, un trio qui est né en 94 dans l'état de Virginie, qui était composé de Roddy Lane au chant, Don Campbell à la guitare et John O'Neill à la basse. Alors dès ses débuts, le jeune combo va se forger une sérieuse réputation scénique en sillonnant les clubs de Virginie, et grâce à un manager pugnace, il va finir par attirer l'attention du label Noise Records, qui était un label allemand mais qui possédait une succursale à Los Angeles, et donc Mindset va signer à l'époque un contrat avec eux. Grâce à ce contrat, le groupe va enregistrer un premier album éponyme qui paraît en 97, qui va lui permettre de tourner un petit peu partout à travers les États-Unis, de donner également un show à Londres. Et comme Mindset est très prometteur, et bien le groupe ne tarde pas à retourner en studio pour enregistrer un deuxième album qui s'appelle A Bolt for Cinderella, qui paraît le 16 février 1999. La presse ne tarit pas d'éloges à propos du groupe et de son deuxième album, qui est extrêmement puissant, qui est agressif, accrocheur, qui est complètement dans l'air du temps. Et des titres comme Sorry, qu'on va écouter dans quelques instants, vont faire le bonheur des kids de cette époque-là. C'est aussi des titres qui vont être mis à l'honneur dans des compilations qui sont offertes par les magazines spécialisés comme Roxanne, Kerrang ou Hard Navy pour la France. Mindset devient alors une des formations à suivre de très près, mais comme de nombreux groupes de la scène New Metal, il va jamais transformer l'essai. Son troisième album sera d'ailleurs un tel flop qu'il en existe quasiment aucune trace. Pareil en ce qui concerne son quatrième album, et aujourd'hui Mindset est retombé dans un anonymat complètement total. Mais qui sait, hein, avec le retour en grâce du New Metal qui se dessine actuellement, peut-être qu'on verra Mindset réapparaître prochainement. Je sais pas, ce serait une surprise assez marrante en fait de voir un groupe qui revient comme ça 20 ans après. En attendant, peut-être de les voir émerger un de ces quatre, on va écouter un vieux morceau, hein, on va écouter le morceau Sorry, extrait de leur fameux album A Bolt for Cinderella, paru il y a tout pile 20 ans. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour le prochain numéro de Check Me Load, qui s'annonce déjà très très riche en nouveautés, puisque la semaine prochaine il y aura beaucoup de choses qui vont paraître. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui parmi les sorties de ce vendredi, donc programme qui s'annonce très chargé. Très bon week-end à tous, et puis profitez bien du soleil. À dans 15 jours, Mindset tout de suite avec le titre Sorry.
eyes on my face. Don't have the strength to make them stay. My head's exploding. It's time for it.